Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du concept du quantitative easing, cette espèce de perfusion géante de liquidités que les banques centrales ont branchées sur le système financier pendant 15 ans, histoire d'éviter que la planète parte en vrille. Je vous parle d'une époque subprime 2008-2009. Ben aujourd'hui, on vit un peu l'inverse. Et on n'en fait pas trop de publicité, même si ces derniers temps, on commence à en parler un tout petit peu plus dans les médias spécialisés. C'est donc peut-être le bon moment d'en parler sur cette chaîne, puisqu'on touche à la fin de cette cure d'amaigrissement que l'on appelle le quantitative tightening ou QT pour les intimes. C'est le régime sec de la finance mondiale. Et comme tous les régimes, il est douloureux, il rend nerveux et il ne dure jamais aussi longtemps que c'était prévu au début. Bienvenue dans cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne Zone Bourse et je suis Thomas Veillet. Alors tout d'abord, c'est quoi le quantitative tightening? Techniquement, c'est l'inverse exact du QI, du QE, le quantitative easing. Pendant le QE, la banque centrale, ou plutôt les banques centrales, la Fed, la BCE, la BOE, etc., etc., rachètent massivement des obligations sur le marché. Des obligations d'État et parfois d'entreprise, avec pour but d'injecter de la monnaie dans le système. Elles créent de l'argent ex nihilo pour faire baisser les taux, relancer le crédit et soutenir les prix des actifs financiers. Le QT, c'est exactement le chemin inverse. La banque centrale arrête d'acheter des obligations, elle laisse expirer les obligations qu'elle détient, ou même en revend une partie, et surtout, elle ne réinvestit pas le cash qui a été récupéré. Résultat, la masse monétaire se contracte. Les dollars, les euros ou les francs créés pendant la période d'euphorie sont lentement aspirés hors du système, comme un plongeur qu'on remonte à la surface après une plongée un peu trop profonde. Et ça, ça change tout. La conséquence directe, c'est moins de monnaie et plus de tension. Quand la banque centrale arrête d'arroser, la liquidité disparaît petit à petit des bilans bancaires, des marchés monétaires et des fonds d'investissement. C'est comme si le bar fermait plus tôt et conservait de l'eau à la place du champagne. Forcément, on a envie de partir. Moins de monnaie disponible, ça veut dire des conditions de crédit plus dures, des taux à long terme qui remontent et des investisseurs qui doivent choisir entre continuer à spéculer ou rentrer dans le rond. Autrement dit, le QT, c'est une hausse des taux déguisée. Un truc qui permet de ralentir un petit peu l'économie et de juguler l'inflation. Un peu, en théorie. Même si la Fed ne bouge plus les Fed Funds, le simple fait de réduire la taille de son bilan a le même effet qu'une pression invisible sur les taux du marché. Les effets sur la masse monétaire, c'est un coup de frein brutal. Depuis le début du QT, mi-2022, la Fed a réduit son bilan de plus de 1500 milliards de dollars. On n'en a pas trop parlé, mais c'est un fait. Ça veut dire qu'autant de liquidités ont été retirées du système. Imaginez une baignoire. Pendant le QE, on a ouvert les deux robinets à fond, et pendant le QT, on a laissé la bombe de fond ouverte et on regarde le niveau baisser gentiment. Le M2, qui est un indicateur de la masse monétaire aux États-Unis, a même connu sa plus forte contraction depuis 1930. Et comme tout dans la finance, c'est un jeu d'équilibre fragile. Quand la masse monétaire baisse trop vite, on finit par créer un risque de crédit, un credit crunch, autrement dit une pénurie de crédit. Les entreprises lèvent moins d'argent, les ménages empruntent moins et la croissance, eh ben elle ralentit. Les effets sur les taux, c'est un resserrement qui ne dit pas son nom. Le QT a un impact direct sur la courbe des taux et quand la Fed cesse d'acheter des obligations d'État, il faut bien que quelqu'un d'autre le fasse. Mais à ces niveaux de prix, personne n'en veut sans un petit bonus, bien sûr. Donc, un rendement plus élevé. Résultat, les taux longs montent. Le 10 ans américain a flirté avec 5% en 2023, du jamais vu depuis 2007. Le coût de la dette augmente pour tout le monde, l'État, les entreprises, les particuliers, et la valorisation des actions devient mécaniquement plus fragile, puisqu'un dollar futur vaut moins cher quand les taux montent. Bon, le troisième point de cette théorie ne tient pas forcément la route, vu qu'on est au plus haut de tous les temps. Mais en théorie, c'est censé fragiliser le marché des actions. Comme quoi les théories, ça vaut ce que ça vaut. C'est pour ça que le QT agit comme une gravité financière. Plus il dure, plus il tire les valorisations vers le bas, lentement, mais sûrement. Là aussi, quand on voit les valorisations de certains, on peut se demander à quoi ça sert. Maintenant, si on regarde l'impact sur les marchés actions, bah c'est le retour du monde réel. Le QI, c'était le Disneyland des marchés. Tout montait tout le temps et la Fed imprimait. Wall Street dansait et les investisseurs se prenaient tous pour un Warren Buffett, mais au carré. Le QT, c'est la fin de la récré. Quand la liquidité se retire, les excès se corrigent. Les valorisations des boîtes tech devraient redescendre sur Terre, en théorie. Les zombies compagnies, ces sociétés qui survivaient grâce à la dette gratuite, se mettent à tousser. Et les marchés deviennent plus volatiles car chaque dollar investi devient plus rare et plus sélectif. Mais attention, le QT ne provoque pas forcément un crash boursier. On est bien d'accord. On est en plein QT et vous voyez l'état du marché. Il crée plutôt un environnement plus rationnel où seuls les modèles solides tiennent et où les promesses creuses s'évaporent. En fait, c'est comme si on vous avait coupé la gravité et là, on vous remettait la gravité, même si certains continue à flotter encore, dopé par l'IA et l'espoir. L'impact sur les marchés obligataires, eh bien, c'est la revanche des taux. Côté obligataire, le QT est presque une bénédiction, à condition d'avoir survécu à 2022. Les rendements redeviennent attractifs, les obligations reprennent de la valeur économique réelle et les investisseurs redécouvrent qu'on peut gagner de l'argent sans prendre des risques complètement délirants. Mais c'est aussi un choc technique. La disparition d'un acheteur structurel comme la Fed crée un trou béant dans la demande. Résultat, les prix des obligations chutent, les portefeuilles 60-40 actions-obligations souffrent et les États doivent payer plus cher pour se financer. C'est d'ailleurs là que se joue le bras de fer. Si la dette américaine devient trop chère à refinancer, la Fed sera forcée d'arrêter le QT et c'est à peu près là où nous en sommes. L'effet miroir, la Fed entre rigueur et panique. Le QT, c'est un peu comme un régime sans sucre. Tout le monde dit que c'est bon pour la santé, mais au bout d'un moment, tout le monde en a ras-le-bol et tout le monde craque et saute sur le paquet de biscuits. La Fed le sait très très bien. S'il y a trop de liquidités, ça va générer de l'inflation. S'il n'y a pas assez de liquidités, ça va générer de la récession. Depuis 2022, elle marche sur un fil, essaye de réduire son bilan sans provoquer une crise de liquidités. Et jusqu'ici, elle s'en est plutôt bien sortie, puisqu'on a réduit le bilan de la Fed, mais les marchés sont au plus haut tous les temps. Mais le simple fait que Powell ait déjà évoqué en 2025 la fin prochaine du QT montre bien que le marché commence à manquer d'oxygène. En résumé, le quantitative tightening, c'est le grand ménage de l'après-fête monétaire. Une manière de réduire la dette invisible accumulée par 15 ans de QE et de redonner un peu de logique économique à des marchés devenus dépendants de la perfusion du QE. Mais comme toutes les cures, celle-ci a un coût. Ça engendre moins de liquidités, plus de tension des marchés qui tanguent et une économie qui ralentit. Et au bout du compte, la seule vraie question, c'est pas combien de temps va durer le QT, mais combien de temps les marchés vont supporter d'être sevrés avant d'en remonter une dose. Donc, mercredi soir, cette semaine, la Fed a lâché une petite bombe. Le quantitative tightening prendra fin en décembre. Alors c'était noyé au milieu de l'annonce sur les taux d'intérêt, donc on s'est pas trop préoccupé de la chose, mais quand même, il l'a annoncé. Alors forcément, Wall Street a levé la tête, les traders ont souri, et les algos ont clignoté en vert fluo, parce qu'en langage de marché, fin du QT, ça sonne comme reprise de la fête. Mais attention, il faut pas confondre la fin de la diète et le retour au buffet à volonté. Oui, la fin du QT, c'est un soutien psychologique énorme pour les marchés. Ça veut dire plus de pression sur les taux longs, ça veut dire que la liquidité ne se contractera plus, et ça veut dire que la Fed commence doucement à enlever le pied du frein. Donc, du coup, le S&P 500 à 7000, ça devient quasiment une évidence, voire peut-être même 8000 à ce rythme-là. Mais soyons clairs, c'est pas non plus une relance monétaire, c'est juste la fin du resserrement. La Fed arrête d'aspirer, mais elle n'a pas encore commencé à injecter. Donc si avec ce QT qui était censé ralentir les marchés, on est au plus haut de tous les temps, si on l'enlève, ça devrait encore permettre de donner encore un petit peu plus d'air au marché. Mais on n'est pas sous perfusion d'un nouveau QA. Autrement dit, pour l'instant, la Fed est passée du « je t'enlève l'air des poumons » au mode « je te laisse respirer tout seul ». C'est un progrès, mais c'est pas encore de l'oxygène pur. Pas encore l'oxygène pur du QA. Et les marchés, eux, ils adorent ce genre de signaux, en général. Ils entendent pause et ils traduisent par « Ah, bah tiens, Powell redevient sympa !» Résultat, les taux longs se calment et tout le monde se raconte que le pire est derrière nous. Mais la vraie question est la suivante. Est-ce que le marché monte parce que la Fed arrête le QT ou parce qu'il croit déjà au retour du QE. Je vous rappelle que ça fait quand même 2 ans qu'on anticipe des baisses de taux, on serait largement capable d'anticiper un QE. Oui, parce qu'on le sait tous, hein, les investisseurs ont la mémoire courte et on a un besoin maladif de liquidité. La fin du QT, c'est donc un peu comme le moment où votre médecin vous annonce que vous avez fini la cure d'antibiotiques, vous avez envie de sortir, de boire des verres, de croire que vous êtes guéri, mais vous oubliez pourquoi vous étiez malade au départ. Donc, on risque de rechuter plus fort. Bref, oui, la fin du QT, c'est un support pour les marchés, c'est un bon signe psychologique, symbolique et mécanique, et c'est surtout le signe que la Fed commence à préparer le terrain pour la prochaine étape, et la prochaine étape, on la connaît, la nécessité où Powell devrait rebrancher la perfusion du QE, parce que l'économie est au bout de sa vie. Ça, on en reparlera dans quelques mois. Abonnez-vous à la chaîne Zone Bourse, likez et partagez cette vidéo, et nous, on se retrouve très bientôt, ici même. Ou ailleurs. Salut à tous !